Jungle, avant que les personnes qui étaient le jungle passaient pour Angleterre ou arrivaient pour Afghanistan ici.
Mina doh kulu tanga ki gi mata chal narazi. Wi Allah tu kwacha taranga grani gi mata chal narazi.
Rebonjour à toutes et à tous pour ce départ du quatrième, si je ne me trompe pas, quatrième Jungle Tour, le Jungle Tour 2013. Je donne tout de suite la parole à Claudine Kaiser qui va vous expliquer le Jungle Tour et moi je reprendrai un petit peu la parole après pour reparler du local ici, de cette première étape.
D'accord. Bon, bonjour à tous, bienvenue. Donc là, je vous parle au nom de l'équipe organisatrice de ce Jungle Tour. Donc effectivement, il s'agit de la quatrième édition. Alors, qu'est-ce que c'est que le Jungle Tour ? Donc c'est un tour à vélo essentiellement, mais il y a aussi des voitures et je me suis laissé dire qu'il y a des personnes qui vont marcher également. Donc de citoyens qui vont sillonner le Nord-Pas-de-Calais pour atteindre Canterbury le 12 juillet prochain. Dans quel but ? Eh bien, ce tour relie les différents lieux où les exilés font halte sur leur parcours. Des exilés venus de très très loin, d'Afghanistan, d'Érythrée, et puis de divers pays où ça ne se passe pas très bien pour eux, en quête d'une protection et d'une vie meilleure. Chaque étape sera l'occasion d'une sensibilisation pour rappeler la situation qui est faite aux exilés et appeler à un accueil respectueux de leurs droits. À l'occasion de la sortie de son rapport annuel 2013 sur la situation des droits humains dans le monde, Amnesty International a déclaré que faute d'action internationale dans le domaine des droits humains, le monde est en train de devenir de plus en plus dangereux pour les réfugiés et les migrants. Ce sont des associations qui, au quotidien, sont sur le terrain, aux côtés des personnes exilées, de passage dans notre région, qui vont accueillir les diverses étapes du Jungle Tour et qui vont organiser le contenu de ces étapes. Donc aujourd'hui, je remercie d'abord les premiers sur la sellette, qui Fraternité Migrants Bassin Minier 62, qui ont donc préparé toute cette étape, de l'accueil jusqu'à la nuit, jusqu'au petit déjeuner demain matin, et puis qui nous accompagneront sur la prochaine pour passer le relais à nos renfonds de demain, donc où ce sera l'association Terre d'Errance qui nous accueillera demain soir. Donc. Puis nous irons à Bailleul, où nous serons reçus par Flandre Terre Solidaire. Et puis il y a également Terre d'Errance Flandre Littoral. Il y aura Emmaüs à Dunkerque, Médecins du Monde Migrants Littoral Nord-Pas-de-Calais. À Calais, il y aura Salam, l'Auberge des Migrants, la Marmite aux Idées. Et je les remercie toutes pour cette grosse contribution qui, en plus de leur action au quotidien auprès des migrants, leur a quand même donné un petit peu de travail, il faut le dire. Je voudrais aussi remercier d'autres associations qui nous soutiennent à leur manière. Donc la CIMAD 62, le CASPA d'Arras, la Ligue des droits de l'homme de la Fédération du Pas-de-Calais, dont je voudrais excuser l'absence des représentants pour des raisons de santé. La PSM, RESF, le Secours catholique, la délégation du Pas-de-Calais, CCFD Terre solidaire, Itinérance Cherbourg. Et puis là, on va un petit peu plus loin, puisque nous avons le soutien également d'Amnesty International, secteur Nord-Pas-de-Calais, mais aussi de Canterbury. Et puis le CRAN, qui est une organisation anglaise, Kent Refugee Action Network. Et puis nous serons accompagnés tout au long de ce tour par le relais radiophonique de Radio Fréquence Paris Pluriel. Merci Yves, qui doit être dans le coin, qui va... il est là. Il a commencé de toute façon. Il faut faire attention. Et puis il y en a d'autres, je ne peux pas tous les citer ici, et puis des individus, et puis des collectifs, et puis enfin on se sent, c'est un peu la fête malgré tout, malgré la thématique. Bon, nous sommes là pour les réfugiés d'abord, ce sont des personnes qui ont un visage, qui ont une histoire, ils ont aussi des droits qui doivent être respectés. Parce que quitter son pays, chercher un refuge n'est pas un choix mais une nécessité. Dans le monde, chaque jour, des personnes fuient leur pays parce que leurs autorités ne peuvent ou ne veulent pas les protéger de graves atteintes à leurs droits fondamentaux. À l'échelle de l'Europe, l'Union européenne applique des mesures de contrôle aux frontières qui mettent en danger la vie des migrants et des demandeurs d'asile et ne garantissent pas leur sécurité. Hein. Et puis, plus près d'ici, dans notre région, le harcèlement par les forces de l'ordre des migrants présents, en particulier dans le Calaisis, a fait l'objet d'un rapport adressé au ministre de l'Intérieur en novembre dernier par le défenseur des droits Dominique Baudis, dans lequel celui-ci demande qu'il soit mis fin à ces pratiques et que la hiérarchie policière, qui ne peut les ignorer, y porte une attention particulière. Donc les situations qui nous avaient mobilisés lors des trois premiers Jungle Tours sont malheureusement encore d'actualité. Le Jungle Tour a cette année encore lieu de part et d'autre de la frontière, mais cette fois-ci entre France et Grande-Bretagne. Auparavant, c'était France et Belgique. Deux pays où des exilés tentent de se fixer parfois en accédant à une protection comme réfugiés ou comme mineurs. Nous souhaitons ainsi comparer les situations et tisser des liens entre les associations des deux pays. Cette année, le Jungle Tour se veut le porte-parole de deux revendications majeures. D'abord, le droit à un hébergement digne pour les migrants de passage, afin qu'ils puissent simplement dormir ou se reposer sans être harcelés. Et ensuite, nous demandons également une révision, voire une abolition des accords franco-britanniques en vigueur, dont certains points sont en contradiction totale avec le droit international et le droit national des deux pays concernés, donc la France et l'Angleterre. Merci à vous tous qui apportez votre pierre à l'édifice et puis bon courage à nos frères du bout du monde.
Bonsoir, je m'appelle donc Laura Hamilton, je fais partie du groupe de l'île d'Amnesty International. Nous soutenons le Jungle Tour depuis plusieurs années et je participe cette année en vélo et avec la voiture balai. Nous essayons de relier tous les groupes de... qui soutiennent les migrants qui traversent le Nord-Pas-de-Calais avec l'idée de rejoindre l'Angleterre.
Bonsoir, moi c'est Claudine Kayser et je fais également partie d'Amnesty International et je contribue à l'organisation de ce Jungle Tour et j'ai également pédalé aujourd'hui.
Donc bonsoir, moi je suis Benoît Deck, je représente ici le collectif Fraternité Migrants Bassin Minier 62 qui agit auprès des migrants vietnamiens qui se trouvent à Angres depuis quelques années maintenant et nous avons accueilli bien volontiers pour la quatrième édition, le Jungle Tour 2013. Il a failli ne pas passer à Lens, ça aurait été un scandale, nous nous sommes battus et nos amis d'Amnesty et autres organisateurs ont bien évidemment cédé à nos fortes pressions.
Pourquoi Lens et pourquoi est-ce qu'on est parti du Louvre ?
Alors effectivement, ce qui est nouveau cette année à Lens, c'est quand même le Louvre, c'est quand même un événement, ce musée qui s'est installé au cœur du bassin minier, puisque à ce jour, au bout de 7 mois d'ouverture, 570 000 visiteurs, c'est pas rien. Donc c'est une renommée internationale et donc nous avions sollicité la ville de Lens pour pouvoir démarrer le Jungle Tour dès l'entrée du Louvre, à l'entrée du Louvre, et ce qui nous a été accordé. Et le maire de Lens et son premier adjoint étaient présents ce matin avec nous pour nous encourager. Donc je pense que ça montre aussi que dans le bassin minier, au-delà de toutes les questions politiques, etc., les élus sont en capacité de soutenir nos initiatives.
Et il y avait d'autres élus qui étaient là que le maire de Lens.
Oui, il y avait également le maire de Grenay et une représentante de la municipalité de Liévin.
Et un représentant de la municipalité de Bully-les-Mines.
Donc on est parti de Lens ce matin, on est passé par Grenay. Et pourquoi par Grenay ?
D'abord, après avoir quitté le Louvre, nous nous sommes rendus à la Grande Résidence. Je crois, tout le monde ne connaît pas la Grande Résidence. La Grande Résidence, c'est un quartier important de Lens. Dans d'autres villes, on appelle ça la ZUP. C'est le quartier populaire et surtout, c'est dans l'endroit où il y a un très grand marché qui a lieu tous les samedis après-midi, qui regroupe beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, nous nous sommes rendus aux abords de ce marché, ce qui nous a permis de discuter avec quelques personnes qui étaient là, de leur parler de la situation des migrants. Donc ça, c'était une première étape de cette journée après le départ du Louvre. Et puis après, nous sommes rendus effectivement à Grenay, où nous avons été accueillis par le maire de Grenay. Et nous sommes rendus aussi sur un... Il y avait un marché aux puces dans un quartier de cette ville-là, nous y sommes rendus. Nos vaillants cyclistes ont pu aussi avoir, de la part du maire de Grenay, une petite présentation de la ville et de l'histoire de la ville. Parce que ce qu'il faut rappeler, et je crois que c'est important de resituer ça dans un contexte, c'est qu'on parle d'un jungle tour pour aller voir les camps qui accueillent les migrants qui sont de passage chez nous. Mais le Nord-Pas-de-Calais est une terre d'immigration, et en particulier le bassin minier du Pas-de-Calais est une terre d'immigration.
1880, il n'y avait rien, il y avait 280 habitants. 1914, il y en avait 6600. Donc quand tu parlais tout à l'heure d'immigration, d'immigrés et tout, c'est une évidence. Alors ça a d'abord été des paysans du secteur, hein, des Flandres, de l'Artois, de Wallonie. Et puis ensuite, ça a été de plus loin. Mais c'est évident qu'on est une terre d'immigration. Moi, je suis pas d'ici, hein, je suis un étranger. Alors on était sur la ligne de front, les Anglais tenaient Grenay. Quand vous allez reprendre la rue Casimir-Beugnier, vous allez avoir sur votre droite un cimetière anglais. Donc là, c'était les Anglais, et à l'os, c'était les Allemands. Donc là d'où vous venez, c'était les Allemands, et le front était entre les deux pendant toute la guerre, ça a pratiquement pas bougé. Donc au sortir de la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas une maison intacte. Il a fallu tout rebâtir, que ce soit l'église, la croix de guerre, parce qu'elle a été détruite, elle a été reconstruite après la Première Guerre mondiale, mais tout Grenay, enfin comme Bully, voilà, c'est ça, on a rien d'historique d'avant la Première Guerre mondiale. Tout ça s'est classé UNESCO. L'an dernier, le bassin minier a été classé UNESCO, et donc la ville de Grenay, cette cité-là, elle est classée remarquable. La cité en face, la cité 5, est classée exceptionnelle, avec l'église et puis les deux écoles qui l'encadrent. Il reste le presbytère derrière, qui est une résidence sociale pour les jeunes, et puis le centre d'écouteurs, qui est en fait l'ancien patronage. Et puis la troisième cité est classée remarquable aussi.
Aujourd'hui, revirement de tendance, on a du mal à accueillir les immigrés. D'une manière générale en France, mais ça ne fait pas assez dans le bassin minier comme ailleurs. Et donc, nous nous battons au quotidien pour faire en sorte que les immigrés d'aujourd'hui soient accueillis comme les immigrés d'hier. Le Nord-Pas-de-Calais, terre d'accueil, il faut lui redonner du sens.
Et donc, on était aujourd'hui dans la jungle de Angres. Angres, ça fait donc maintenant c'est la troisième année qu'on en parle, hein, dans l'écho des jungles. Mais c'est quand même une jungle, un camp, un lieu qui a toute une histoire et qui n'a pas toujours été là où il est aujourd'hui.
Alors, d'abord, petite aparté, je vais vous embêter avec votre émission, parce qu'on aime de moins en moins le terme jungle. Parce que le terme jungle, il fait référence à quelque chose d'un peu exotique, fait référence, quand on parle à des enfants, parler de la jungle à des enfants, ils vont parler des animaux. Alors là, ce n'est pas des animaux, c'est des êtres humains dont on parle. C'est des personnes. Donc je crois que c'est aussi... et d'ailleurs, plusieurs fois, des migrants, pas chez nous, mais ailleurs dans la région, ont dit « Pourquoi vous dites les jungles ? Pourquoi on n'est pas des animaux et on n'est pas des gens à part ? Nous, on souhaite être comme vous, on souhaite vivre comme vous. » Donc, quelquefois, on parle des exilés, on parle des immigrants, on parle mais avant tout, on parle de personnes qui sont là et qui vivent dans des conditions malheureusement précaires. Alors, dans pas mal d'endroits, on parle de camps, mais à Angres, est-ce que peut-on encore parler d'un camp ? Non, parce qu'on a essayé de construire une dynamique en partenariat avec la mairie d'Angres, et Madame le maire de Angres sera avec nous demain matin pour le départ de la deuxième étape. On a construit une dynamique pour faire en sorte qu'ils soient accueillis dans des conditions un peu meilleures, puisqu'ils sont dans une maison. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où les migrants sont dans des maisons. Et un camp qu'on essaye d'améliorer au fur et à mesure. Et là, la dernière nouvelle, c'est que l'État, enfin, est-ce que le changement c'est maintenant, je ne sais pas, va commencer à se bouger, puisqu'il nous propose de nous aider à mieux accueillir les migrants en nous donnant des financements. Alors, pour l'instant, ce n'est que oral. On va voir si ça se concrétise, on va voir si ça se réalise. Mais en tous les cas, on sent quelques avancées pour faire en sorte qu'on puisse encore mieux accueillir les migrants, encore mieux leur donner, leur rendre la dignité qu'ils ont en tant qu'êtres humains, comme ils auraient dû l'avoir toujours. C'est absolument scandaleux qu'ils ne l'avaient plus. Il faut que dans notre région, terre d'accueil, on redonne de la dignité aux migrants.
Et sinon, donc, toute cette histoire, elle s'est déplacée, elle était donc dans un coin près de l'autoroute, dans un bosquet qui a disparu. Et...
Ah oui, il y a eu toute une histoire. Depuis, ça va faire quoi, 6-7 ans qu'il y a des migrants vietnamiens dans le secteur de Angres. Au début, ils étaient dans un bosquet. Ils se sont installés dans un camp qui était un camp de fortune, vraiment dans des conditions complètement déplorables. De là, ils ont été expulsés par les forces de police, qui ont fait d'ailleurs pression sur le propriétaire du terrain pour que le propriétaire du terrain rase tous les arbres puisque les migrants vietnamiens ne puissent pas se réinstaller. Du coup, on s'est retrouvé sans rien. On avait même fait provisoirement un camp sur la place de la mairie d'Angres, au vu et au sud de tout le monde, avec les migrants vietnamiens, et qu'on a fait ensemble, français et vietnamiens, où on a dormi quelques jours, en plein milieu de la ville, sur la place de la mairie. Et on avait appelé ça d'ailleurs à l'époque le camp Besson, en mémoire, j'allais dire, au sinistre ministre de l'Intérieur de l'époque. Suite à ça, les migrants se sont installés dans un bois, où ils sont restés quelques mois, tout un hiver, dans des conditions absolument très difficiles. Une petite anecdote, c'est que quelque part, ça nous a rapprochés d'eux. Hein. Quand on a vécu des choses très très dures ensemble, ça nous rapproche d'eux et ça a créé des liens de solidarité qui ont dépassé des choses qu'on peut voir ailleurs. On avait vraiment vécu des choses très dures quand on passe des soirées complètes et quelquefois même à fêter le nouvel an avec eux dans 10 cm de boue. Vous imaginez un petit peu ce que ça peut être. Et pourtant, on faisait la fête dans 10 cm de boue. Voyant tout ça, en lien avec la mairie, on a trouvé ce lieu où ils sont aujourd'hui depuis maintenant 3 ans et qu'on essaye toujours de continuer à améliorer.
Est-ce qu'on peut décrire un petit peu le lieu ou...
Bien sûr, c'est une maison. C'était une maison qui était abandonnée sur un terrain qui appartient à la ville. Qu'est-ce que je peux raconter ? Donc les migrants aujourd'hui ont des conditions d'accueil. Bon, c'est pas encore, il n'y a pas l'eau courante encore, mais ils ont accès à l'eau quand même pour pouvoir en bénéficier. Il n'y a pas l'électricité, mais on a installé un groupe électrogène, donc on arrive à peu près à s'en sortir. Mais c'est quand même encore fait de briques et de brocs. Donc l'étape suivante, dans l'idée qui a été développée d'ailleurs parmi tout le réseau des associations qui aident les migrants, la PSM, la plateforme de services migrants, on a conçu l'idée de mettre en place la maison du migrant. La maison du migrant, c'est quoi ? C'est un nouveau dispositif dans le droit au logement. Le droit au logement, c'est quelque chose qui normalement doit exister pour tout le monde. Ça, il faut le rappeler. Qu'on soit migrant, irrégulier, régulier, mineur, de n'importe quelle origine, etc. On a le droit, SDF, etc. On a le droit à l'hébergement. C'est même une obligation de l'État de réaliser le droit au logement. Et pour mettre en œuvre ce droit au logement, l'État, il met en place des dispositifs. Il existe les foyers de jeunes travailleurs pour les jeunes, il existe les CHRS pour les sans-domicile fixe, il existe les CADA pour les demandeurs d'asile. Mais pour les migrants de passage, il n'existe rien. Et bien nous, on a inventé un dispositif et on demande à l'État de le mettre en place, qui s'appelle la maison du migrant, qui est un lieu où les migrants vont pouvoir effectivement avoir accès à l'eau, à la nourriture, aux soins de santé, etc., aux choses fondamentales de la vie. Mais c'est aussi un lieu où ils peuvent avoir aussi des informations et des facilités d'accès aux droits, s'ils ont envie de demander l'asile, s'ils ont envie de demander, pour voir les problématiques de leur procédure qui sont en cours. Et puis enfin, c'est un lieu qu'on voudrait concevoir comme un lieu où le migrant peut, quelque part, faire une pause migratoire. Une pause migratoire, c'est un moment où on s'interroge. Parce que c'est vrai, quand on est parti depuis... Mais imaginez, ceux qui viennent du Vietnam, ils ne sont pas partis d'hier. Ils sont partis quelquefois depuis des mois, voire quelquefois depuis des années de leur pays. Vous imaginez tout ce qu'ils ont endurci pendant des années et des années. Et sans savoir trop où est-ce qu'ils vont en Angleterre, sans savoir trop qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas. Et puis quelquefois, il y en a qui nous disent, mais finalement, est-ce que je vais aller en Angleterre? Qu'est-ce que je vais faire? Enfin, etc. Tout ça. Et bien, c'est important qu'on puisse avoir un lieu où toute cette parole puisse s'exprimer, où toute cette parole puisse être posée, et non pas pour... dire il faut faire ci, il faut faire ça, mais que pour que le migrant puisse agir en toute conscience et agir en toute en étant pleinement conscient de ce qui l'attend, de quelles peuvent être ses perspectives. Donc, cette maison du migrant que l'on a conçue avec l'ensemble des associations de la région, hein, nous on faisait partie, mais vous verrez vous aurez peut-être le même discours à Noranfont, à Calais, à Dunkerque, etc. C'est quelque chose que l'on promeut aujourd'hui et qui est notre point de mire vers lequel on veut aller. Et c'est notre cheval de bataille. Et pour la première fois, la semaine dernière, nous avons une réunion avec le préfet. Et le préfet a accepté de discuter, éventuellement de construire cela avec nous. C'est une sacrée avancée et c'est vraiment une grande perspective pour l'avenir.
Donc ça, faudra nous tenir au courant au jour le jour.
On l'a travaillé, c'est un texte qu'on a travaillé, on le travaille depuis un certain temps. Maintenant, on en a parlé parce qu'on a travaillé pendant des mois pour concevoir le projet.
Et tu dis préfet, accepter de
le faire. On a demandé au préfet d'avoir des crédits pour étudier la faisabilité de notre affaire. Et le préfet a dit OK.
Et la faisabilité sur le Pas-de-Calais.
Non, sur la région Nord-Pas-de-Calais et avoir quelques à partir. L'idée c'est de lancer l'expérimentation sur quelques sites. Angres pourrait faire partie de ces sites-là, mais Noranfont aussi. On a parlé parce qu'il faut que bien sûr l'État soit d'accord, il faut que des élus locaux soient d'accord, il faut qu'il y ait une association locale qui soit d'accord. Et puis on se met autour de la table et on construit.
Mais comment ça peut, avec la politique qui mène le ministère de l'Intérieur actuellement, vous avez une norme importante de personnes mises à la porte, ça fait un petit peu contre-politique, ou non ?
Alors, effectivement, ça peut paraître contradictoire par rapport à la politique d'immigration de la France en général. Mais la politique d'immigration, c'est un autre sujet. On se bat aussi sur cette question-là. Mais il faut le rappeler, le droit au logement est inscrit dans la Constitution française. C'est un droit qui doit s'exercer. Et donc, l'État n'a pas à tergiverser sur la possibilité qui doit être offerte de construire un dispositif pour des populations particulières. Et donc, on se battra là-dessus. S'il faut aller devant les tribunaux, si jamais l'État ne donne pas suite, ou si jamais l'État a un revirement ou je ne sais quoi... S'il faut aller devant les tribunaux, s'il faut aller devant la Cour européenne des droits de l'homme, on ira.
Le jour où il y a une maison des migrants, est-ce que ne se présenteront pas à Angres des migrants qui ne seront pas, comme aujourd'hui, des migrants vietnamiens, mais d'autres origines, des Érythréens par exemple?
Ils sont mélangés, tu veux dire, parce qu'il y a une maison ici.
Ça donnerait une opportunité qui n'existe pas aujourd'hui à un certain nombre de gens qui sont relégués au milieu des champs ou sous les ponts de Calais.
Alors, d'abord, je vais te reprendre, ce n'est pas la maison des migrants, c'est la maison du migrant. Ce n'est pas leur maison, ça ne leur appartient pas. C'est une maison que l'on partage avec eux, et qui leur est destinée, mais que l'on partage avec eux. C'est un peu comme, on s'inspire aussi derrière ça, comme ça se passe dans beaucoup d'endroits en Afrique, la case de passage. C'est un peu la maison de l'hospitalité. C'est un peu et elle n'est pas réservée, elle n'appartient pas à ceux qui passent, elle appartient à tous. Je crois que c'est important de marquer ce symbole, ce qui veut dire qu'on peut accueillir d'autres gens. Et que ça n'a pas été. Alors, après, quand on a conçu le projet, on a dit ce projet, on ne va pas le bâtir n'importe où. On ne va pas aller installer une maison du migrant à l'autre bout de la région Nord-Pas-de-Calais, parce qu'il n'y a aucun migrant et ils n'ont pas envie d'aller là-bas. Les migrants, ils sont là. Parce qu'ils sont sur le bord de l'autoroute qui mène vers l'Angleterre. Donc c'est là qu'il faut installer les maisons du migrant. C'est pas n'importe où. Sinon, de toute façon, ils ne viendront pas. Et après, il ne faut pas se leurrer. Derrière les migrants, on ne vient pas du Vietnam à Angres. Tout d'un coup, ils n'ont pas trouvé Angres comme ça par hasard. Il y a des réseaux, il y a des filières. On n'est pas naïf derrière tout ça. Et donc ça, on ne changera rien par rapport à ça. Le fait que les camps soient mono-ethniques, un peu partout dans la région, sauf à Calais, ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait parce que les gens, les réseaux sont là, parce que les choses comme ça. Ça, de toute façon, on ne changera pas les choses par rapport à ça. Mais ça ne veut pas dire que demain, à Angres, un Érythréen, puisque vous parliez de ça, se présente à la maison du migrant, il sera accueilli comme les autres.
Jungle, avant que les personnes qui étaient le jungle passaient pour Angleterre ou arrivaient pour l'Afghanistan ici.
Mina doch kulu tsanga ki gi mata chal narazi. Wi Allah tsukwa cha tsaranga grani gi mata chal narazi.